une des parties ou des questions plus personnelles que vous aviez, vous étiez venu à l'idée en voyant l'information sur la soirée.
Moi, voilà.
Oui, vas-y.
J'ai une idée, mais c'est un peu parfait. Mais... Tu as parlé de sécurité humaine et de cette nouvelle commission qui aurait à l'ONU, donc qui se préoccupe de la sécurité humaine comme un bien commun. Hier, le président de Bolivie, Evo Morales, qui a mis dans sa constitution le bien vivre, qui est carrément ça, sécurité humaine, c'est-à-dire le bien-être de chaque individu. Et tu as dit que celle-là, elle serait plus légitime, elle va au-delà de la sécurité d'État et donc on va intervenir dans des pays comme Libye et tout ça. Mais je me dis, puisque le capitalisme, le néolibéralisme sont quelque chose qui vont à l'encontre des accusés de barbarie, vont à l'encontre de cette sécurité humaine-là. On pourrait les accuser des crimes de l'humanité. Et ce serait une occasion d'attaquer vraiment de front, de déclarer complètement illégaux, parce que c'est vraiment des crimes contre l'humanité. C'est vraiment... Alors après, il y a le problème quand tu parlais de G20. Le G20, c'est un organisme complètement illégitime qui prend le dessus par rapport à l'ONU. Et ce sont vraiment 20 pirates qui se croient les plus forts, les sommes malheureusement, et qui prennent le dessus sur l'ONU. Mais c'est vrai que si on redonnait la valeur à l'ONU et on les écoutait, et on écoutait cette directive-là, ce serait vraiment une idée super de nous accuser de crimes contre l'humanité, on les barre, et puis voilà.
Quand j'ai lu ce rapport, j'ai eu la même réaction que toi, c'est-à-dire me dire on est dans un paradoxe.
Ouais.
Parce que bon, tous ces gens très intelligents qui réfléchissent dans ces commissions, ce ne sont pas nécessairement des gens qui condamnent le capitalisme. Alors, il y a quand même un problème. En fait, ce qui se cache, à mon avis, l'idée, bon, connaissant un petit peu les travaux économiques d'Amartya Sen, je pense... L'idée qu'il y a sous cette notion de sécurité humaine, c'est d'amener les États à avoir des politiques publiques qui développent justement cette notion de sécurité au niveau de l'éducation, de la santé, etc., etc. Moi, je vois ça comme ça, c'est-à-dire promouvoir ces politiques, des politiques en faveur de l'émancipation des individus. Alors c'est extrêmement intéressant parce qu'actuellement, au niveau des politiques publiques, on assiste à un désengagement de l'État à tous les niveaux, bon, qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'État-providence, l'État qui pourvoit au bien-être des individus, à la sécurité des individus, il a été progressivement remplacé par ce qu'on appelle aujourd'hui l'État assurantiel. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Le désengagement de l'État est compensé par le développement d'activités économiques privées qui vont prendre en compte ces risques qui ne sont plus, on va dire, pris en charge par la collectivité. Et donc, le risque ne sera pas nié, mais le risque, eh bien, sera pris en charge par des assurances. On va s'assurer contre le risque. Au cas où il y a un problème, on sera dédommagé. Et donc aujourd'hui, ce qui pose problème, et on l'a vu avec Fukushima, eh bien, ce sont tous ces risques qu'on ne peut pas assurer. Donc le problème du nucléaire, le problème, par exemple, le problème des crises dans l'agroalimentaire, donc là avec l'histoire des concombres ou de la bactérie tueuse. Le problème de fond, c'est pas que des individus et puis puissent mourir parce que les conditions de contrôle sanitaire ne sont plus assurées parce qu'il n'y a plus assez d'agents publics pour effectuer tous les contrôles. Non, le problème, c'est que tout d'un coup, il y a toute une filière, la filière du concombre, qui se trouve mise en péril, que ça va coûter des millions d'euros et que ça, on ne peut pas l'assurer. Voilà, le problème, il est là. C'est en ce sens que le système est profondément inhumain. La peur, la panique, elle n'est pas liée au fait que des individus puissent mourir. La panique, elle est liée au fait que tout d'un coup, il y a des millions d'euros qui vont disparaître. Voilà. Et que donc les pouvoirs publics ne peuvent pas répondre, on va dire, à une crise qui n'est pas vraiment une crise sanitaire, mais qui est d'abord une crise économique. Et donc, à mon avis, l'objectif des travaux de cette commission, c'est d'inciter les pouvoirs publics à avoir des politiques publiques un peu plus audacieuses en faveur du développement des individus. Voilà. Hein? Alors, c'est vrai que bon, dans nos sociétés, enfin, en France, jusqu'à présent, la situation n'était pas dramatique, comme par exemple dans certains pays d'Amérique centrale, d'Afrique, etc., où il y a là la question de la sécurité humaine, de la satisfaction des besoins alimentaires est cruciale. Hein. Mais c'est vrai qu'on assiste quand même à une paupérisation du secteur public, à une désagrégation, on va dire, du tissu social, qui fait que nous aussi, nous allons nous trouver dans une situation d'insécurité humaine, et donc dans la nécessité que, qu'à nouveau, on ait des politiques publiques dignes de ce nom. Voilà. Je pense que l'idée de la Commission, c'est ça, d'inciter les pouvoirs publics à avoir, à se donner comme objectif la sécurité des personnes, mais dans un sens extrêmement large, et pas simplement la sécurité policière. Voilà. Mais effectivement, on est dans un paradoxe, puisque c'est le système qui génère cette insécurité.
Je te laisse. C'est vrai que je parle de paradoxe, mais on y est en plein, puisque le désengagement de l'État par rapport au public, bon, il est lié à des économies parce qu'il n'y a pas d'argent, mais la raison essentielle, c'est parce qu'il y a des parts de marché à prendre par le privé. Donc, on se désinvestit, l'État se désinvestit pour laisser la place au privé, aux assureurs. C'est ce qui se passe avec la Sécu. Donc, dans le système qu'on a, demander à l'État de s'approprier le bien commun, c'est aller contre son système. Donc, c'est quand même assez utopique de croire qu'ils vont faire ça. Alors, ils peuvent y réfléchir, mais je ne vois pas comment ils peuvent mettre en place des politiques qui vont à l'encontre de leurs intérêts, des dirigeants. Enfin, excusez-moi.
Le problème, c'est, à un moment donné, la question de la participation, on va dire, des citoyens. Par exemple, si on prend la question de la grippe aviaire, enfin, de la grippe...
HL.
C'est vrai que le débat a été confisqué par les spécialistes. C'est vrai qu'il y a eu une espèce un travail de propagande pour dire aux gens, écoutez, vous n'y connaissez rien. L'information scientifique, elle n'est pas à votre niveau. Donc on va laisser faire les spécialistes de l'OMS, les spécialistes de la santé. Bon, tout en sachant que ces grands spécialistes de la santé avaient été en cheville avec les grands laboratoires. Et donc le problème qui se pose, c'est finalement le contrôle qu'exerce la société civile et le débat. Voilà. Dans la mesure où le débat est possible, dans ce cas-là, je pense que nous pouvons infléchir les politiques publiques. Mais c'est Chomsky qui montre très bien. Il montre très bien comment, dans nos sociétés, l'information est confisquée par, on va dire, une élite qui représente 20% de l'opinion. Hein. Et donc la confiscation de l'information par ces 20% a fondamentalement pour but de marginaliser les 80%. Donc l'information qui est donnée aux 80%, c'est quoi? C'est du divertissement. Et agiter le spectre de la peur du violeur ou des voyous qui vont venir attaquer le pauvre retraité la veille des élections, eh bien, c'est une forme de divertissement. Hein, voilà. Ce qu'il faut, c'est reconquérir, on va dire, déjà, l'accès à l'information pour pouvoir débattre et infléchir la décision politique. Parce que confisquer l'information, c'est finalement... empêcher le citoyen de participer à la décision politique. Le but, il est là.
Absolument. C'est le même discours avec l'économie, c'est trop compliqué, vous ne comprenez rien.
Mais c'est la même chose en médical.
Oui, c'est...
Oui, vas-y.
Oui, l'insécurité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la ressentent en France, sauf que ce n'est pas du tout dans l'ordre des priorités telles que le voit le gouvernement. Parce que la première crainte de nos concitoyens, surtout des plus jeunes, c'est le chômage. Et une des deuxièmes craintes, c'est parce que moi je suis hors du coup, je dis je suis le plus vieux de la santé, si ça se trouve. Et donc, autre problème, le logement. Mais pour un gouvernement, c'est pas porteur, ça, pour un gouvernement de droite. Parler du chômage, parler de faire des logements sociaux, c'est fait pas, quoi. Donc le résultat, on nous monte en épingle toutes les histoires. Alors, le capitalisme ne l'a peut-être pas fait exprès au départ, mais il a fait de tous les... beaucoup de Français des propriétaires et très attachés à leur propriété. Alors, petit, il le peint très souvent. Et puis, on les a, on s'est mis à l'empire, mais vous savez, faire leur laisser un temps. Vous, allez, vous, vous risquez beaucoup, vous avez une maison, vous avez des trucs dedans, etc., etc. Et voilà, les gens, ils se mettent à acheter tous les systèmes de surveillance type de, automatique qui peuvent exister. C'est des matériels qui coûtent fort cher, mais voilà, il y en a qui ne l'occupent pas. Et puis alors, on va apparaître, même en environ, des cités fermées. C'est-à-dire, il y a une clôture, il y a un portail, il y a un gardien. Oui, il y en a deux à la prison. On va chercher des autres.
C'est un marché. Marché de la peur, hein, comme, comme Mathieu Ricoust le dit.
Mais
Jean,
tu étais avant,
tu étais
oui, moi je réfléchissais tout à l'heure à quelque chose suite à ton intervention. Il y a une peur qui paraît non fondée sur l'ignorance. La peur à l'heure actuelle de l'atome. On sait à l'heure actuelle comment est faite la matière, on sait comment elle fonctionne, on sait les réactions chimiques, on connaît les réactions nucléaires. Donc tout ça on le sait, on le connaît, on connaît leur dangerosité. C'est à l'heure actuelle objectif, scientifique, ça fait l'objet d'une unanimité dans le monde scientifique. Et pour autant, on en a peur. Alors, on en a peur, pourquoi ? Ben parce que, justement, parce qu'on sait, quand je dis on sait, ce sont les scientifiques, on sait quels sont les dangers du rayonnement. Ça, c'est objectif. Le rayonnement, c'est fait pour détruire les cellules, et donc, obligatoirement, c'est dangereux. Dangereux pour la vie même de l'homme. Donc, objectivement, la peur ne naît pas d'une ignorance, dans ce cas-là. Elle naît du fait que c'est un milieu qui paraît infiniment puissant par rapport à l'homme. Moi, je pense qu'elle naît de ça. Et ensuite, bien entendu, les milieux industriels veulent faire des profits avec, donc on se fout pas mal de cette infinie puissance, mais on va s'en servir au jour le jour. Si jamais il y a des critiques qui sont faites par rapport aux déchets, bon, et c'est pas grave, les déchets, on fait d'abord une petite réserve financière chez l'industriel, de façon à pouvoir les traiter, démanteler les centrales quand elles arriveront à un bout de potentiel. Vous en faites pas, dormez bien, braves gens, on a pensé à tout. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit à l'occasion d'incidents qui ne sont pas maîtrisés, ça peut être des accidents, mais c'est des incidents aussi, hein. Donc qui ne sont pas maîtrisés, on s'aperçoit que on nous a pas du tout informés sur les conséquences de cette science que l'on connaît très bien par contre. Voilà. Et c'est une peur qui me semble très différente des peurs que nous dressent les pouvoirs. C'est une peur fondamentale et qui est basée sur des données scientifiques, qui est la vie de l'homme est en danger immédiat par le rayonnement. Voilà. Et donc celle-là de peur, je la mettrai un peu de côté parce que elle ne fait pas l'objet d'une instrumentalisation. Par contre, c'est l'opposé qui fait l'objet d'une instrumentalisation. La peur de manquer d'électricité, la peur de manquer de l'énergie. Donc si jamais, eh ben c'est le vide. Ouais. Bon, on sait que c'est pas vrai, c'est pas le vide. Hein. Il suffit de faire quelques économies, il suffit de puiser dans la ressource infinie du soleil qui nous est adressée tous les jours, pour qu'effectivement on arrive à trouver des moyens de construction, des moyens de transformation, des moyens... Bon, mais il suffit d'investir là-dedans. Et là, c'est pas dangereux d'investir là-dedans. Et il n'y a pas de danger à long terme lié à... Enfin, de danger pour la vie humaine à long terme. Voilà. Et ça, c'est ce contraste énorme entre le vrai danger, donc la peur que peut... effectivement faire naître ce vrai danger, et de l'autre côté, l'inverse, la peur créée par les pouvoirs, pour dire, mais c'est la catastrophe si jamais on continue pas ça. Voilà. C'est un drôle de cas, ça, moi. Ça m'a toujours... C'est pas une peur classique.
Non, c'est l'argent quand même. C'est une histoire d'argent aussi, quand même. Parce qu'ils ne veulent pas perdre leur argent, donc ils te font peur que si tu n'as pas l'atome, comme tu dis, qui va manquer d'électricité.
Oui, mais par contre, il faut en avoir peur, objectivement, de par notre connaissance scientifique qui est parfaite là-dessus. On sait toutes les conséquences, on sait que les choses vont durer 200 000 ans, les dangers vont durer 200 000 ans, et encore, il en restera toujours un petit peu, hein, puisque c'est toujours ça, ça décroît toujours, mais ça va être...
Oui, les personnes n'en parlent, les instruments de propagande ne te parlent pas de cette peur-là, et c'est dans les mains de quelques voyous que le contrôlent. Oui.
La propagande, c'est là où il y a ces deux types de peurs qui me paraissent, moi, complètement opposées, une qui est réelle, objective, et l'autre qui fabrique. Voilà. C'est...
Oui.
J'aurais voulu intervenir.
Oui, il y a une intervention là-bas, oui. Et puis après, oui.
Je crois que ici, en Aveyron, on ne peut pas encore imaginer qu'est-ce que c'est comme un bien de ne pas avoir peur. Par exemple, chez vous, on laisse la voiture ouverte, hein, le clé dessus, le clé sur la porte. Et... Ça ne me montrait pas dans la tête de faire ma voiture. Pourquoi il y a 20 personnes qui se plaignent? Non. Non, mais il y a d'autres, dans d'autres lieux où cette tranquillité est partie. Et là, les gens ont peur tous les jours. J'avais des copains qui sont allés en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Tu ne sors plus quand il n'y a plus de soleil. C'est trop dangereux. Tu n'es pas fou, quoi. Hein? Tout en ta vie est accordée à cette peur qui n'est pas imaginée, qui est réelle. Parce qu'il y a, et tout ça, c'est lié à un trop grand différent entre ceux qui ont et ceux qui ont bien. Et c'est là la dangerosité pour l'instant. Je crois que cet clivage qui s'agrandit de plus en plus dans notre société. Parce que nous, on va perdre notre tranquillité. Dans ce clivage, ça va être englouti et après tu ne peux plus le ressortir de là.
Oui.
Et j'avais une question par rapport à pourquoi tu fais cette date du premier septembre. Dans ma perception, c'est pas ça. Parce qu'on a déjà eu, tout un tas de lois sécuritaires avec la fraction armée rouge. Il y avait déjà la perte de la présomption de innocence. Tu es un sympathisant, membre, perpétuité, même si on ne pouvait pas te reprocher. Vraiment prouver que c'était toi qui as tué tel. Quand tu connais le film Glory for Columbine, cette psychose des Américains devant l'homme noir, c'est beaucoup plus vieux que le 11 septembre. Je ne vois pas la toi, tu prends ça comme de l'État.
Donc, je réponds et puis. Si tu veux, ce que les sociologues et les philosophes ont analysé, c'est que le 11 septembre 2001 marque une généralisation, on va dire, à l'ensemble des démocraties occidentales, que ce soit la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, etc., on va dire, de dispositifs sécuritaires. C'est-à-dire que jusqu'à présent, effectivement, dans certains États, il y avait des dispositifs qui portaient atteinte aux droits des citoyens. Par exemple, en Allemagne, il y a une loi qui n'était jusqu'à présent jamais appliquée, qui date de la période nazie, qui concerne la responsabilité des malades mentaux en cas de crime. Donc jusqu'à présent, cette loi n'était pas appliquée. C'est-à-dire, si un malade mental commet un crime, on considère qu'il est irresponsable. Bon. Depuis 2-3 ans, cette loi a été utilisé et on s'en est inspiré en France pour incriminer les malades mentaux qui pourraient commettre des crimes. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une évolution. Hein. Le basculement, c'est que c'est une évolution générale des systèmes juridiques occidentaux. Ce n'est pas des dispositifs ponctuels qui sont liés à des contextes historiques particuliers. On a un infléchissement du droit dans les démocraties occidentales qui vont clairement, qui portent clairement atteinte aux libertés individuelles, qui menacent non seulement, on va dire, la sécurité des personnes et la liberté des personnes, mais qui posent problème, on va dire, dans la définition de ce que peut être une démocratie. Le problème, il est là. C'est-à-dire, dans la mesure où nous vivons dans des États qui ne respectent plus les libertés des individus, est-ce qu'on peut encore dire que nous vivons dans des démocraties ? Le problème qui se pose, c'est ça. Voilà. Hein ? Et c'est vrai que, bon, on a assisté, moi je me souviens, à tous ces débats autour de la torture. Hein ? Ouais, après le 11 septembre, c'était extraordinaire de voir comment des gens, défenseurs des droits de l'homme jusqu'à présent, cautionnaient l'usage de la torture. Voilà, donc ça pose quand même des problèmes de fond. C'est-à-dire, vivons-nous encore dans des états de droit ? Si tout individu peut être privé de droit en raison d'une, d'une présumée dangerosité. Voilà, le problème, il est là. Hein ? Et donc, le problème, c'est que ça s'est généralisé. Voilà. Et qu'il n'y a pas un état qui fasse exception. Et donc, ce qu'on voit se développer, hein, ce sont finalement des états d'exception. Hein. C'est-à-dire que maintenant, hein, eh bien, on va créer des lois pour des catégories de la population. L'état d'exception, c'est ça. C'est-à-dire que la loi ne s'applique plus à tous, mais elle s'applique à certains. Voilà, le problème, il est là. Et donc, est-ce que nous vivons encore dans des démocraties ? Le problème qui se pose, c'est ça. Hein. Dans la mesure où la décision politique n'appartient plus, on va dire, aux citoyens. Dans la mesure où les lois s'appliquent à certains et pas à d'autres. Dans la mesure où on peut être sanctionné sans avoir rien fait. Hein ? Donc, dans quel régime politique vivons-nous ? Le problème, il est là. Et on ne peut pas dire que nous vivons dans des régimes totalitaires. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que Chomsky, c'est très intéressant quand il travaille sur la question de la propagande, parce qu'il dit que la propagande, ce n'est pas le fait des régimes totalitaires. L'utilisation, la manipulation de l'information, c'est vraiment le fait des démocraties occidentales. Et ça doit nous amener à nous interroger. Mais à partir du moment où on commence à s'interroger, bon, ben, il y a l'espoir. Voilà. Et sinon, pour revenir à ton intervention sur, et aussi sur cette idée que la peur de l'atome, c'est une peur bien particulière, bon, moi, je crois que la peur de la puissance de la nature, c'est-à-dire la capacité qu'a, on va dire, l'atome à détruire la vie, on va dire, on revient à cette peur primordiale qui fait que nous avons conscience que nous sommes mortels. Notre problème, il est là. Ce qui fonde notre humanité, c'est le fait que nous soyons mortels. Et que ça, c'est ça, on ne peut pas aller contre. Et si tu veux, eh bien, la peur de l'atome, c'est ça, on est ramené à ça. On est ramené à notre condition humaine. Et lorsque tu dis qu'on ne peut pas sortir dans la rue à la tombée de la nuit, ben, on revient à cette fragilité de l'être qui fait ce qu'on est. Donc, c'est pas une peur à part, c'est de la peur. Moi, je pense que c'est... la véritable peur. Après, lorsqu'on nous dit, bon ben, si vous êtes contre le nucléaire, ben, vous n'aurez plus d'électricité, et puis ça va être le retour à l'âge de pierre, ça c'est autre chose. Hein, là, ce qu'on joue, là, si tu veux, on joue sur notre peur de manquer. Tu vois ? C'est-à-dire qu'on joue, tu parlais d'inconscient, de psychanalyse, on joue sur autre chose, sur le désir, sur la pulsion, et c'est autre chose, mais la peur de mourir, je pense que c'est une peur fondamentale et fondatrice et nécessaire, qui fait que l'humanité est créative.
Pourquoi nécessaire ?
Ben, si tu étais immortel, c'est-à-dire si nous étions tous immortels...
Non, je parle de la peur. Je ne parle pas d'être immortel.
Non, mais...
Pourquoi avoir peur de mourir ?
Mais ben, c'est... Ah, pourquoi avoir peur de... Effectivement, on ne... Oui, effectivement, c'est pas... on peut ne pas avoir peur de mourir.
On peut se dire que je vais mourir un jour. Moi, j'ai peur.
Oui, on peut ne pas avoir peur de sa propre mort. Le seul problème, c'est que ce qui est en jeu, c'est pas simplement notre propre mort. Après, il y a la mort des êtres qui nous sont chers. Mais bon, vous pourrez faire un jeudi sur la question de la mort dans notre société. Mais tu as raison, c'est pas nécessaire. On peut.
Si, si, tu as un instinct de survie. Alors, ça. Tu veux vivre.
Dans quelles conditions?
N'importe.
Alors, comme c'est du suicide,
non. C'est un moment de débat, mais on ne veut pas.
Moi, je voulais intervenir sur les habits donc, qu'ils ont là. Tout à l'heure, ils ont tous dit on va manquer de moyens financiers. On n'a pas les moyens. Or, il faut savoir que ce qu'on vous raconte sur l'argent, c'est faux. L'argent n'existe plus. Vous écoutez un peu la radio ou la télévision, ils envoient des milliards de cela, de 50 milliards par là, 65 milliards. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui bouge? Il n'y a rien qui bouge. Ce qui bouge seulement, c'est les zéros sur leur compte en banque. C'est-à-dire, l'argent a disparu. Alors, il a disparu quand on a cessé de reconnaître l'or comme la base de l'argent. Je croyais que c'était en 1968-69, que c'était plus ou moins De Gaulle qui l'avait fait. Et puis, en fait, je viens d'apprendre que c'est en 1971 que les financiers ont décidé que l'or n'était plus la référence. Et l'or n'est plus la référence. Qu'est-ce qui est la référence? C'est rien. Rien. Je dis bien rien. C'est-à-dire des zéros sur des banques. La vraie valeur de monnaie, en fait, c'est tout ce qu'on produit. Or, quand on joue sur les monnaies, c'est pas les produits qui varient. On ne produit pas plus ou moins d'un jour à l'autre. On produit plus ou moins par an, à la rigueur, par mois. Mais c'est pas vrai. Et l'argent, ça n'existe pas. Hein, c'est-à-dire, je reprends mon idée, hein, à l'origine c'était l'or, enfin, on pouvait remonter avant avec l'argent, avec les monnaies, avec le cuivre, etc. Mais peu importe, avant il y avait de l'argent, il y avait la monnaie, ça n'existe plus. Alors, je voudrais même juste faire une petite aparté dont je ne suis pas absolument sûr. Il semblerait que le développement de l'économie occidentale vienne de l'or qu'on a pris en Amérique du Sud. On a pris en Amérique du Sud et en Amérique centrale des tonnes d'or, et c'est ça qui a augmenté la valeur de la monnaie en Europe. En Europe, non,
mais non, c'est pas possible.
Pardon?
C'est pas possible.
Et si, pourquoi? Je vous écoute.
Je trouve un trésor, en fait. 5 000 euros. Je suis riche. Ça prend pour augmenter la richesse du pays.
Mais
parce que 5 000 euros rentrent en France avec les tonnes d'or.
Qui c'est qui mange de l'or? Qui c'est qui s'habille avec de l'or? En dehors de ma.
L'or dévalue.
L'or n'a aucune valeur aujourd'hui. Ce n'est plus la valeur, c'est les chiffres qui sont que les banques veulent.
Par rapport à.
Vous écouterez la radio.
L'or va diminuer.
Je voudrais juste signaler que ça peut faire l'objet d'un autre jeu.
Oui, voilà.
Mais bon, on peut recentrer le débat sur les peurs, oui. Même si effectivement alors, l'économie est
généraliste. Les peurs, pardon, j'ai terminé sur ça. Les peurs, c'est qu'on va manquer de monnaie, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Mais les peurs vont mettre, on va manquer de monnaie d'ailleurs. Dans tout ce qu'on vous dira, tous les politiques vont vous dire, si on fait ça, c'est pas possible. D'ailleurs, les Grecs, on vient de leur dire, on peut pas vous fournir de la monnaie, donc l'Europe va s'écrouler. En fait, c'est rien, il suffit de mettre des zéros sur leur compte en banque. Hein. C'est pas. Et je suis sûr de moi, hein. Ce qui fait la valeur d'une chose, c'est ce qu'on produit. Et la production, elle ne varie pas d'un jour à l'autre.
Il me semble juste que des pouvoirs s'établissent en s'opposant en protecteur de la population, en énonçant, en désignant des sujets de peur, des ennemis, ce qu'on veut. Et souvent, il y a un passage où ils n'ont plus besoin de ça. C'est-à-dire que des pouvoirs totalitaires se perpétuent. Et c'est eux-mêmes le sujet de la peur. C'est eux qui ils n'ont plus besoin de désigner un ennemi. Ce passage me paraît assez étrange. Je ne sais pas comment il peut même se produire. Mais il se produit assez souvent. des régimes totalitaires qui s'avèrent totalitaires. Je m'explique sans doute mal. Je veux dire des régimes totalitaires qui n'ont plus à désigner un ennemi extérieur, mais qui sont eux-mêmes générateurs de peur pour le citoyen, parce que si le citoyen ne roule pas pile poil sur la ligne, il va en taule ou... Et souvent, des régimes qui fonctionnent de cette façon-là se sont établis dans un premier temps en désignant des ennemis extérieurs et en se posant protecteurs de un peu ce que... Voilà, c'est ce passage-là que je trouve étrange.
C'est la prise de pouvoir. Non, le
Pouvoir.
Non, une dictature, elle génère la peur. Enfin, c'est pour ça que Chomsky dit une dictature n'a pas besoin de propagande. Hein, oui. Puisque finalement, ce qui permet au pouvoir de se tenir clairement en place, c'est la peur. Et Machiavel disait, il y a deux choses qui permettent un pouvoir politique, il y a deux passions qui permettent à un pouvoir politique de se maintenir en place. Il y a d'une part la peur et de l'autre, il y a l'admiration. Voilà. Là, ce sont les deux passions qui font que le peuple va donner son consentement au pouvoir. Parce que si le pouvoir politique n'a pas le consentement du peuple, il ne peut pas gouverner. Et donc la question qui se pose, c'est comment, aujourd'hui, dans nos démocraties occidentales, nos pouvoirs politiques, qui sont largement discrédités, obtiennent malgré tout ce consentement. Comment nos élites politiques parviennent malgré tout, enfin moi c'est la question que je me pose, à se maintenir au pouvoir. Par quel mécanisme? Par quel moyen? Donc, pour les dictatures, c'est très simple. La peur, on prend les opposants, on prend n'importe qui dans la rue, on débarque chez quelqu'un la nuit, on arrête sa famille, on est tranquille, tout le village va se tenir à carreau. Dans les démocraties, c'est différent. On ne peut pas utiliser la violence. Donc, Chomsky nous dit, on utilise la propagande. On joue sur autre chose. On joue sur d'autres peurs. La peur manquée. Hein. Et pour revenir au débat, le problème, c'est pas de manquer d'argent, la peur. Le problème, c'est de ne pas pouvoir investir. La crise du subprime, c'était ça. C'est qu'à un moment donné, le système avait généré tellement d'argent qu'il ne trouvait plus le moyen de s'investir cet argent. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a investi la richesse produite, l'argent produit, sur des assurances, sur des risques. On a inventé des biens immatériels qui ont permis d'investir cet argent qu'on n'arrête pas de produire, de générer, parce que le but du capitalisme, c'est de générer toujours plus de profits, mais qui ne trouve plus à s'investir. Le problème, il est là. Et l'écart entre les plus riches et les plus pauvres est devenu tellement gigantesque que les plus riches sont tellement pétés de thunes qu'ils ne savent plus quoi en faire. Parce que le problème, ce n'est pas les pauvres qui consomment. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent? Et la crainte, elle est là. C'est qu'on est dans un système qui génère sa propre destruction. Et le problème, c'est quelle béquille? Quelle béquille on en a pas. Et c'est ce qu'ont démontré les réactions des politiques qui ont refoulé les banques, et ça a servi à rien. Il suffit de voir où en sont la Grèce, l'Espagne, le Portugal aujourd'hui. Hein, on est à la limite, et puis bon, il faut voir. Là, aujourd'hui, il y avait une grande manifestation de la fonction publique en Angleterre, ce qui est extraordinaire. Hein, donc, voilà, notre système.
Ça se finit par un hold-up de la plutocratie sur ce qui était des biens publics il y a peu de temps encore. La santé, etc.
Ben, on va voir comment. On va voir de quelle créativité les peuples vont faire preuve. Voilà. Pour l'instant, on est dans une situation de révolte, d'émeute, mais pourquoi est-ce que, après tout, les peuples ne s'approprieraient pas leur destin? On ne sait pas. On a parlé des printemps arabes. Pourquoi? Et ça revient à ta question. Pourquoi ces peuples qui vivaient dans la terreur, qui subissaient des monarchies autoritaires, pourquoi soudainement ces peuples se sont soulevés? Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, les gens sont sortis dans la rue et n'ont plus eu peur? Ou ont accepté de risquer leur vie pour plus de justice?
Parce qu'à un moment donné, la peur était insupportable et il faut trouver une solution.
Et puis surtout, c'était beaucoup des jeunes qui n'ont rien à perdre parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils n'ont rien.
C'est la vie.
Et la vie, mais bon...
Mais la vie, au bout d'un moment, si elle n'est plus vivable,
voilà.
Voilà, on va réagir.
La vie, c'est quand même. On prend ce sentier des
choses. Justement, dans cette direction, si les États, les gouvernements d'aujourd'hui sont les manipulateurs pour cette petite élite riche, c'est pas à eux que je m'adresserai pour ma sécurité à moi. Ça me semble contradictoire. Ce n'est pas eux dans lesquels je mettrai ma confiance ou mon espoir. Alors je réfléchis par rapport à l'autre acteur qui pourrait créer cette système où la sécurité est assurée par une idée globale de bien-être social, humanitaire. C'est exactement ce que tu as dit à la fin. C'est à nous de créer cet acteur. Parce que ça ne dépend pas être ça aussi, ni Merkel, ni Cameron. Alors là, on peut être aussi. Et même pas Obama.
Excusez-moi. Oui. Si on revient un peu au côté philosophie, est-ce qu'il n'y a pas un problème. Est-ce que la peur ne se transmet pas de génération en génération? Et peut-être que sur la troisième, quatrième génération, on ne sait plus pourquoi on a peur. Ben, je ne sais pas.
Voilà, maman. Je t'avoue que c'est plus psychanalytique que philosophique.
D'accord.
Je ne peux pas te répondre. Hein. Parce que ce sont des histoires individuelles. Et on revient toujours à cette idée que l'être humain possède... qu'il n'y a pas de fatalité, que l'être humain possède une créativité et donc, à un moment donné, peut être en mesure de s'approprier son histoire et faire qu'il ne subit pas nécessairement ce qu'on appelle le roman familial, génération à l'autre.
Je voulais vous répondre par rapport à la peur, elle est une partie physiologique, une partie psychologique. Ce qui est physiologique, c'est, semble-t-il, de très très loin, génétiquement, puisque les peurs qu'on a sont des peurs très semblables à ceux des animaux. Pour donner un exemple, tout le monde a peur des serpents. C'est pas...
Non, moi pas.
Je veux dire, quand un serpent me part dans les pieds, même moi qui dis c'est pas dangereux, j'ai peur. Mais je veux dire, il y a donc des peurs qui sont héréditaires. Et puis après, je crois que dans la façon dont on vit, on tient beaucoup de l'éducation qu'on a eue quand on était petit. Et nos parents, s'ils ont peur de quelque chose, nous aussi on a peur de ça, voilà, je crois. Ça. C'est tout ce que je veux dire. Je veux dire un peu de génétique et puis peut-être beaucoup d'éducation.
Moi je voulais dire un autre truc aussi par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Là, qu'est-ce qui fait que dans les pays arabes en ce moment, les gens se sont soulevés ont affronté leur peur, ont été au bout d'eux-mêmes. En fait, je pense que c'est parce qu'ils ont... je pense que c'est qu'ils ont réussi déjà à trouver un autre moyen de communiquer, parce qu'on parle de réseaux sociaux, etc. Donc, il y a par le rassemblement, le fait de s'apercevoir que plusieurs personnes pensent la même chose et qu'en fait, effectivement, c'est injuste, en fait, qu'ils ont des raisons de penser que ça l'est, etc. Donc je pense que la communication, ça fait partie des solutions pour s'opposer à la peur, enfin, de s'apercevoir qu'on a plusieurs avancées à la même chose, c'est rassurant, et puis ça permet de progresser sur le sujet, et puis voilà. Après, je sais, malheureusement, souvent ça s'arrête là, et c'est dommage que ça, c'est comme, un peu comme un œuf qui, enfin, l'histoire se retombe comme un soufflé, donc c'est pas grave, plus tard il y aura d'autres tentatives, et voilà, mais je pense que c'est... Super intéressant cette histoire de communication nouvelle par les nouveaux moyens. Donc voilà, je sais pas. Comme on est en train de faire là déjà, enfin, on n'a pas de moyens de communication plus que la bouche et. Mais déjà, c'est
assez vrai.
Voilà.
Mais justement, on lutte contre l'ignorance, je crois.
Comment ?
La peur vient de l'ignorance. Et le fait de savoir que notre pays, on peut être libre, ça veut dire que c'est plus possible de subir ça depuis plusieurs générations. C'est intolérable. Autre chose existe.
Oui.
À noter que si les Grecs ont peur de ne pas avoir de monnaie, ils n'ont qu'à se la faire. Ceux qui ont fait de l'argent il y a quelques années.
Oui. Ce que je voulais dire, ta remarque elle est intéressante parce que c'est pas Donc, au-delà du fait de pouvoir communiquer, c'est que tout d'un coup, les individus ont le sentiment d'appartenir à une communauté. Et le fondement du politique, c'est ça. C'est quand on arrête de dire « je » pour se penser comme un « nous ». L'action politique, elle est possible qu'à partir du moment où nos intérêts individuels deviennent secondaires par rapport à quelque chose qu'on va placer au-dessus de nos intérêts individuels, qui est justement ce qu'Aristote appelle la justice. Nous, le lien commun, voilà. Et ce qui fait que j'agis dans l'action politique, c'est qu'à un moment donné, je veux construire quelque chose avec les autres pour être avec les autres. Et c'est vrai que le développement de nouveaux moyens de communication, le fait que tout d'un coup l'information circule mieux, eh bien ça contribue, hein, à créer ce nous. Et je pense que bon, ça a certainement joué, on va dire, comme déclencheur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on appartient à une communauté. On est nous, on n'est plus je, on n'est plus seul.
Même si dans certains pays, malheureusement, les gouvernements mettent la main là-dessus, verrouillent les réseaux sociaux autant que possible, ferment Internet, ils n'ont pas l'accès total à toute l'information, tout ça, parce qu'ils ont bien compris que c'était un danger. Donc en fait, je suis pas là pour prôner Internet et la technologie, mais bien que c'est très utile pour savoir ce qui se passe ailleurs, et puis ça peut se voir que... Après, moi, je suis un peu triste que ça n'aille pas plus loin et que ça n'aille pas plus vite, et que ce soit parce qu'il y a tellement d'hypocrisie et tellement de choses qui sont aberrantes. Vous l'avez évoqué pendant tout le votre exposé. Enfin, bon, plusieurs fois. Voilà, tout le monde le sait ici. Je pense que ça part. Après, c'est, voilà, je ne sais pas comment faire pour que ça aille. En gros, pour pouvoir aller plus loin dans l'action et dans la réflexion et dans la justice.
Oui, je peux dire quelque chose par rapport à... Ça touche par rapport aux événements de printemps arabe. Il y a eu un événement déclencheur, et parfois il suffit d'un événement déclencheur. Et c'était quelque chose qui touchait l'inconscient collectif, hein, de Jung. Et il y a eu un jeune qui s'est immolé par le feu. Et j'ai parlé avec un médecin tunisien qui disait que c'est vraiment l'acte suprême. On ne peut pas s'immoler par le feu pour la religion musulmane. C'est vraiment quelque chose de terrible. Et ça, c'était vraiment, c'est lui, et on sent donc que tous les autres sont allés dans la rue, qu'ils ont dit on n'a plus rien à perdre. Et donc, on ne sait jamais ce qui fait le battement du papillon, tout ça. À un moment, il y a l'étincelle, et là, en effet, ils ont vaincu les peurs ancestrales, etc. Quelqu'un a osé les défier. Et voilà, peut-être donc ça peut toujours arriver. Bon, là, le printemps espagnol, les gens continuent, là, ils ont décampé la porte de sol et tout ça, mais ils continuent à des exigences, ils n'intéressent pas la politique, et ils réclament vraiment une autre démocratie, plus de démocratie. Et bon, il y a des choses qui bougent dans le monde. Seulement, comme disait Aline, ici, les médias en France, quand tu allumes la télé, tu écoutes la radio, il n'y a que la peur du violeur, je ne sais pas quoi. On croit qu'on vit dans un monde où il n'y a que des faits divers en France. Quand on ouvre les autres chaînes internationales, il se passe des choses dans le monde. Il y a même un mec de gauche qui a été élu au Pérou. Enfin, il y a des trucs, quoi. Ici, rien. Il n'y a que, si, aujourd'hui, il y a les otages.
Mais je pense que c'est général parce qu'on va dans d'autres pays, parce qu'on a de la télé, on voit
il y a des chaînes d'information parallèles, et même je t'achète dans les télés les plus pourries du monde. C'est un peu plus universaliste que ce qu'on voit ici.
Moi, je me rappelle être allée au Maroc par rapport. Je prends cet exemple, je n'ai aucun problème. Aller au Maroc et avoir vu la télé, avoir vu le roi du Maroc serrer la main à tous ces.
Oui, non, mais bon, voilà,
c'est pendant une heure. Oui, et après, bah, ouais. 5 minutes d'information internationale. Voilà. Donc, c'est pour dire, prendre un autre exemple.
Là, je pense que ça va être pareil.
Oui, non, c'est pour dire que c'est pas juste la France, en fait. Nous, on est un cas, dans les autres pays, il y a les mêmes problèmes, mais c'est partout pareil. Après, on va venir jamais
l'autre.
On
va ouvrir d'autres chaînes, finalement.
Non, je n'ai pas dit que je regardais la télévision. Je répète, pas du tout. Voilà. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Je suis d'accord que oui, les infos, c'est fait exprès pour. Voilà, c'est des faits divers, c'est tout ça, on est d'accord. Mais on est, en France, on est un pays parmi tant d'autres dans ce cas-là.
Ah oui, absolument.
Mais en même temps, ils se révoltent pourquoi, ils vont aller vers quoi, tous ces pays-là. Moi, j'ai l'impression qu'ils aspirent au libéralisme.
Ah non, non, ah non, du tout, non. Non, ils aspirent à une démocratie citoyenne, c'est-à-dire qu'ils disent que la politique ne nous représente plus. C'est-à-dire, ces politiques-là, y compris ceux qui étaient de gauche, parce que le PSOE était de gauche, soi-disant.
Enfin,
pour l'Espagne. Oui. Pour les autres, si tu veux, ils veulent vraiment un peu cette. Ils réclament une économie sociale et solidaire. Ils réclament un respect de l'environnement et construire ensemble. Ils ne veulent plus une politique bipartiste, c'est-à-dire qu'il y a la droite et la gauche et point, quoi. Ils veulent que tout le monde puisse être représenté, ils veulent davantage de représentativité. Et ils ont écrit vraiment des chartes et des manifestes où ils réclament vraiment plus de choses. Oui,
c'est assez bien ciblé. Là.
Et ils sont vraiment très, très impliqués. Tous les jeunes sont impliqués. Et ce qui était curieux, c'est que ça a démarré par les jeunes au chômage. Mais comme les gens plus âgés étaient touchés aussi, parce qu'après tout, ce sont nos enfants, et qu'à 34 ans, même avec des diplômes, ils habitent toujours à la maison parce qu'ils ont Patrick pour se. Ils peuvent être ingénieurs et travailler comme serveur au McDo, quoi. Donc ils n'ont pas de quoi s'acheter un appart, tout ça, ou le louer même. Et donc, il y a une solidarité intergénérationnelle. Et non, ils continuent. Hein. Maintenant, moi, je vois sur El País tous les jours, ils continuent les revendications. Et comme ici, on ne parle pas, El País, c'est un journal, c'est la télé. Et donc, on n'est encore pas les plus révolutionnaires. Mais même El País, ils en parlent. Donc, et c'est vrai, bon, ils sont en lien avec les Grecs aussi, ils sont en lien avec les printemps arabes, ils sont en lien. Il y a une espèce de mouvement international qui s'appuie sur des constitutions comme celle de Evo Morales, sur El Buen Vivir. C'est-à-dire que. Justement, cette protection humaine, cette idée des biens communs, à l'individu doit être protégé pour la santé, l'éducation, le confort minimum, vivre normalement. Quoi. Donc, ils exigent aussi l'arrêt des spéculations sur les produits alimentaires, parce que ça, c'est pas normal aussi que ce soit en bourse, qu'il y ait des gens qui se fassent du fric sur les autres. Quoi. Donc bon, ça ne va pas changer le lendemain, ça ne va pas changer, peut-être qu'il faudra, je ne sais pas, une génération, j'espère que non, hein, qu'il faudra moins, mais bon déjà, je suis très très heureuse vraiment d'entendre qu'il y a des gens à l'ONU qui ont déjà reconnu ça, mais c'est super quoi, et que bon, petit à petit, il faut vraiment déloger, comme a dit Aline, le capitalisme c'est immoral, de toute façon, on ne peut pas moraliser le capitalisme, ça c'est clair. Et donc voilà, il faut inventer un autre système, et petit à petit. Parce que sinon, il y a le risque, comme tu disais, qu'on arrive à avoir peur de l'ennemi, c'est-à-dire se créer des ennemis inventés, l'arabe, le rome, etc. Et que du coup, à ce moment-là, il arrive un état totalitaire qui dit « Ah, va vous protéger des méchants ». Et voilà, on s'installe et c'est fini. Là, il n'y a plus de liberté. Là, c'est franquisme, c'est Gaddafi, c'est qui on veut, mais voilà.
Déjà, le grec joue le rôle de l'ennemi de l'Europe.
Là. Oui, voilà, ah, oui, déjà, oui, voilà, oui, les Grecs, maintenant,
c'est... Je pense qu'il est instrumentalisé au niveau national.
Je pense qu'il y a même
des conflits. En Allemagne aussi.
Ah, oui,
je pense qu'il y a même des conflits, des guerres peuvent démarrer là-dessus. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, la peur changeant de camp, le pouvoir l'éprouvant, il trouve cette dernière ressource, c'est de désigner vraiment... De fédérer les esprits vers un ennemi extérieur comme ça.
Bon, il faut savoir, les Turcs ou les Grecs?
Oui. Oui, ils sont pas très loin, mais ils sont pas bientôt déjà, alors ça va.
Et quand on sait que c'est le gars, le sous-directeur de Goldman Sachs qui a été nommé à la Banque européenne maintenant, alors que c'est lui qui a foutu dans la merde des Grecs en spéculant, en disant « mais oui, il faut cacher votre dette et tout », ben c'est un hallucine, quoi. Ils nous prennent vraiment pour des cons, comme on disait. Bon, non, mais c'est trop compliqué l'économie, vous ne pouvez pas comprendre. Non.
Je pense d'ailleurs que personne ne comprend. Merci.
Y a-t-il d'autres questions sur les peurs?
Oui, sur...
Oui,
il y en a une.
Liée aux peurs. Oui, pardon.
Oui, moi je voudrais revenir par rapport à Jonathan. Tu disais que le mouvement était dégonflé comme le soufflé. Alors moi j'ai le sentiment. Un soufflé.
Ah,
il sort du four, dégonflé, puis. Moi, j'ai le sentiment que c'est des gens qui étaient dans un état, forcément, mais très centralisé. Ils n'ont jamais eu l'occasion de prendre d'initiative. Ces gens-là, des pays nord-africains, ils n'ont pas eu l'occasion de prendre d'initiative. Ils ont été contre cet état, ils l'ont fait écrouler, très bien. Ensuite, ils se sont retrouvés dans un vide. Parce que l'état providentiel qui était oppresseur, c'est vrai, Maintenant, plus d'État du tout. Mais on entend quoi? Les sous, ils n'arrivent pas, c'est vrai. Alors par contre, on retombe sur notre peur. C'est leur peur de se découvrir eux-mêmes, dans leur défaillance, dans leur lacune, dans leur ignorance. Et ça, c'est notre peur, qui est plus profonde peut-être. Et ça sera plus difficile à vaincre.
Oui, et c'est ce que Thierry disait à l'instant, mais c'est pas grave, okay aussi. Oui, qu'est-ce qui se passe après? En gros, c'est bien, ça serait intéressant d'avoir une réflexion. C'est peut-être un peu tôt encore, mais voilà, il faudrait repenser tout ça, y réfléchir à tous. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager à la place de ce qui existe? Plutôt que comme ça, si on est confronté au fait que ça bouge un peu chez nous aussi, maintenant, apporter des propositions, faire des commissions de réflexion. Oui.
Mais tant que les gens ne prendront pas en compte leur individu, leur ego par rapport à la société, je crois que ça restera au peu mort ou ça va s'ouvrir encore. Le problème, c'est l'ego.
Oui, tout à fait.
On avoir peur d'affronter son ego. Ouais.
Et le poids du pouvoir peut tourner la tête.
Et ça recommence.
Et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être réfléchir à des solutions où ce ne serait pas une seule personne qui
tient du pouvoir. La démocratie.
La solution, redevenons contemplatifs comme au début, des graines, regardant les étoiles, la lune.
Traçant sur le sable.
Voilà.
On efface.
Ceci dit, la démocratie grecque, il y avait quand même toute la population d'esclavage qui c'était quelque chose d'extrêmement lointain. Hein. Donc la contemplation, c'est, il y avait quand même les forces de production qui, elles, n'avaient pas tellement de place à l'agora pour discuter de la politique à suivre. Hein.
Si on veut être méchant, on peut dire que les Grecs ont tellement contemplé leur nature qu'ils n'ont plus d'arbres aujourd'hui. Hein. Déforesté complètement la région. Ils ont commencé il y a 2000 ans.
C'était la peur peut-être de manquer d'énergie. Ils ont trouvé le moyen, hein, pas les arbres.
Mais il n'y a pas que la glace, le bassin méditerranéen.
Oui.
Non, c'était juste sur moi pour revenir plus localement en France. Je veux dire, par rapport à toutes ces peurs qu'on a, on a quand même un modèle politique, et là on commence à être baigné, qui va être pendant un an, où ça va être le ou la femme qui va nous sauver. Puisque avec la présidentielle, on entend comme ça, ils ont montré hier Aubry qui se présentait, c'est-à-dire que avant elle parlait de nous, Parti Socialiste, et maintenant c'est je, voilà. Donc c'est vrai que l'histoire arrive en disant, chaque fois, je suis le sauveur, je suis la sauveuse. Donc, que faire par rapport à ça, et est-ce que c'est pas le modèle politique qu'il faut changer d'abord avec supprimer ces sauveurs. Supprimer, pas forcément physiquement.
Pourquoi
vous croyez encore en quoi?
Pourquoi
vous croyez encore en quoi?
Ah oui.
On a fait la même chose avec Obama. Obama, il pensait qu'on le sauvait. On a dit, ils ont eu un noir, l'Amérique est sauvée, quoi.
De toute façon, le résultat, ça fait pour moi, à mon avis, le résultat, ben,
ça se choisit.
Personnellement, je ne me fais pas d'illusions. J'ai mes peurs et c'est pas avec le nouveau président que ça va être.
Oui.
Il faut faire un ancien. Enfin, c'est lui.
Je ne sais pas ce que sera le nouveau, mais c'est ce que c'est maintenant.